Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Menace sur les droits des femmes, titrait récemment le quotidien Le Monde à propos de l'épreuve de force peu visible mais intense à laquelle se livrent progressistes et conservateurs autour des droits sexuels et reproductifs des femmes, et notamment du droit à l'avortement, en particulier au sein des Nations Unies. Plusieurs textes internationaux sont actuellement en cours de révision. L'ONU prépare pour 2015 une conférence Pékin plus 20 destinée à réactualiser les objectifs fixés par la conférence de Pékin en 1995, élimination de toute forme de discrimination, garantie des droits à la santé et à l'éducation ou encore à la procréation. Et dès septembre prochain doit avoir lieu à New York une réunion Le Caire plus 20 censée réviser des objectifs liés au développement humain et aux dynamiques de population intégrant en particulier les droits reproductifs et l'égalité entre hommes et femmes. Dans les enceintes onusiennes, le thème qui crée le plus de tensions diplomatiques est toujours celui lié aux droits sexuels et à la santé reproductive. Certains pays ne voulant pas entendre parler de droits. Quelles en sont les raisons ? En quoi aussi la condition féminine est-elle une question géopolitique ? Quelles conséquences la mondialisation a-t-elle eu sur les femmes ? Positives, négatives, état des lieux et défis de la condition féminine ? Autant de questions pour nos invités par téléphone. Bouchra Benida, directrice de l'Institut de recherche en géopolitique et en géoéconomie à l'ESCA, l'école de management de Casablanca au Maroc. Bonjour.
Bonjour.
Elisabeth Crémieux, géographe, auteure de Géopolitique de la condition féminine paru aux presses universitaires de France. Bonjour.
Bonjour.
Ouvrage auquel a participé également Bouchra Benida. Et Philippe Moreau de Farge, spécialiste des relations internationales, rattaché à l'IFRI, co-directeur du rapport Ramsès. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la condition féminine ? En quoi la condition féminine relève-t-elle de la géopolitique, Elisabeth Crémieux ?
Alors pour moi, elle relève vraiment de la géopolitique parce que la condition des femmes est au cœur de tous les projets de société et par suite de tous les affrontements politiques. Et on le voit très bien en ce moment dans le monde arabe dont Bouchra va parler ou en Espagne par exemple où la droite revenue au pouvoir veut interdire l'avortement.
Et c'est aussi le remettre en question en tout cas
Remettre sérieusement en question. Et aussi parce que le résultat de ces affrontements au sujet de la condition des femmes se lie dans les territoires. La géopolitique prend en considération les territoires. Et on sait bien qu'il y a des territoires sur lesquels on ne voit pratiquement pas de femmes. Il y a des territoires où les femmes n'ont pratiquement pas le droit de sortir. Et quand elles sortent, elles sont cachées. Donc pour moi, c'est un sujet éminemment géopolitique. Il y a aujourd'hui affrontement dans le monde entre deux projets totalement inconciliables concernant la condition des femmes.
Philippe Mordefar, vous partagez cette notion d'affrontement ?
Non, je suis fondamentalement d'accord avec ce que dit Elisabeth Crémieux, c'est clair. Mais j'ai envie de dire, au fond, il y a deux formes de géopolitique. Il y a la vieille géopolitique, qui est une géopolitique qui essentiellement traite des affrontements entre États, des rapports entre entités politiques. Et là, de son nuage, je dirais que la question des femmes n'est pas de la géopolitique au sens classique du terme. Mais il y a une nouvelle géopolitique qui est, au fond, tous les grands phénomènes sociaux planétaires qui deviennent des phénomènes politiques. Et la question des femmes fait partie de cette nouvelle géopolitique. Alors, je voudrais dire que dans notre propos, on a mélangé deux choses. Il y a la dimension géopolitique de la question des femmes, ça c'est un point. Après, on y reviendra, il y a un autre point, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a une régression de la condition des femmes. Mais c'est un autre problème.
Tout à fait, qu'on abordera bien évidemment dans le déroulé de cette émission. Un commentaire, Bouchra Benida ?
Bah écoutez, moi ce que je voudrais ajouter, c'est que différencier entre le statut des femmes et celui des hommes est une opération souvent politique. L'enjeu étant le contrôle d'un État, d'une ville ou d'un quartier, vous savez. Et on voit que la femme, elle se trouve au centre des stratégies, des tactiques et de l'opportunisme politique pour imposer parfois un mouvement, une idéologie sur un territoire et sa population. Ça, c'est le premier aspect de la géopolitique de la condition féminine. Un deuxième aspect, c'est que nous avons bien une représentation géopolitique de la situation de la femme, notamment depuis la révolution iranienne,
qui a entraîné
une réislamisation, si vous voulez, des sociétés arabes. Et nous avons donc d'un côté un Occident où la femme jouit de plusieurs droits, de liberté et d'une émancipation, et auquel s'oppose, et là nous avons donc, quand je parle de s'opposer, donc le terme très cher à la géopolitique rivalité, un territoire de la Oumma musulmane, où la femme, elle va être ramenée à une stricte observance de la charia, et donc où elle va être, disons, privée de certains de ses droits. Voilà.
Alors, je reviens à cette question qu'évoquait à l'instant Bouchra Benida. Ce qu'on constate, Elisabeth Crémieux, c'est que dans de nombreux pays du Sud, les droits des femmes, d'une certaine manière, ont reculé depuis 30 ans. Bouchra Benida évoquait la révolution iranienne de 1979. Et parallèlement aussi, ce que semblait vouloir évoquer Philippe Moreau de Finch, certains droits acquis sont menacés dans les pays développés. Qu'est-ce qu'on peut dire en 2014 de la condition des femmes? Finalement, la mondialisation, quelles conséquences sur la situation des femmes dans le monde, Elisabeth Crémieux?
Alors, sur la mondialisation, je pense que les conséquences sur les femmes sont très ambivalentes. Il y a des conséquences positives. Je crois que Philippe Moreau de Farge va se faire un plaisir d'en parler parce que... Et puis, il y a des conséquences, à mon avis, très négatives. Donc, je suggère que Philippe Moreau de Farge parle du positif et je compléterai avec le négatif.
Disons, fondamentalement, je dirais, pour moi, la mondialisation est positive pour les femmes. Parce que qu'est-ce que c'est que la mondialisation? C'est la mise en circulation des idées, c'est la comparaison des situations. Donc, les femmes sont beaucoup mieux informées. Et je voudrais donner un exemple très frappant. Pas dans tous les pays du monde, mais dans la grande majorité des pays du monde, et notamment dans les États musulmans, la natalité chute, notamment en Iran, par exemple. Donc, ça veut dire que, on sait très bien que lorsque la natalité chute, c'est que les femmes maîtrisent leur fécondité. Donc, c'est une éducation des femmes. Donc, on voit bien que même dans des pays dits islamiques ou réislamisés comme l'Iran, eh bien, il y a transformation de la condition féminine. D'ailleurs, moi, si vous voulez, il y a une expression qui m'a beaucoup gêné. On a parlé d'un recul. Je voudrais qu'on discute là-dessus. Que les femmes soient privées de droits, que les femmes n'aient pas les droits auxquels elles devraient normalement bénéficier. Je l'accepte. Qui est recul, j'en suis pas sûr du tout. Même dans l'Iran roméniste a été très ambivalent. C'est vrai qu'il y a un processus de séparation des hommes et des femmes assez dur, de type tout à fait islamique. Mais en même temps, dans l'Iran roméniste, les femmes font des études, les femmes travaillent, etc.
Et
elles votent. Parce que, si vous voulez, pour moi, la donnée fondamentale qu'apporte la mondialisation, c'est que la femme est reconnue aujourd'hui comme une richesse. C'est-à-dire que les sociétés qui ne mettent pas les femmes au travail se tirent une balle dans le pied.
Et même parce les sociétés... qu'il y a un véritable lien entre travail des femmes et croissance.
Exactement.
Et amélioration du quotidien.
La croissance, c'est la mise au travail du maximum de personnes. Ne pas mettre au travail la moitié de l'humanité, c'est quand même un peu ridicule.
Oui. Elisabeth Crémieux.
Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis. Sociétés, aujourd'hui, les femmes ont accès au travail. Et quand on a à l'éducation et au travail, quand on a accès à l'éducation et au travail, on a accès à l'autonomie.
Voilà, exactement.
Mais ça n'est pas vrai partout. Et même dans ce monde musulman où les femmes ont accès à l'éducation, elles n'ont pas toujours accès au travail. Le taux d'activité des femmes au Moyen-Orient est le plus faible du monde.
C'est vrai.
Donc, il y a quand même des retards, et selon moi, il y a aussi des reculs. Il y a des droits, par exemple, les femmes iraniennes, au moment de la révolution communiste, ont perdu des droits, et en particulier dans le domaine du mariage, parce que ça, c'est le cœur. La répudiation est redevenue possible, la polygamie est redevenue possible.
Il y a recul, il y a vraiment recul.
Mais ça, je ne sais pas si on peut l'imputer à la mondialisation.
Non. Non, c'est pas la mondialisation, ça, l'avènement d'un régime islamiste en Iran.
Voilà.
Alors, pour alimenter un petit peu ce que vous venez de dire par rapport au travail des femmes, selon l'Organisation internationale du travail, donc l'OIT, le travail des femmes serait le facteur le plus important pour réduire la pauvreté dans le monde.
Exactement.
Et selon le FMI, si le nombre de femmes actives professionnellement était porté au même niveau que celui des hommes, la progression du PIB dans les Émirats arabes unis serait de 12%, au Japon de 9% et aux États-Unis de 5%. Bouchra Benida, un commentaire?
Alors écoutez, moi je vais bondir dans le sens de Elisabeth Crémieux, non pas par solidarité féminine, mais sur la base de chiffres. Quand on prend la situation des femmes dans certains pays pauvres, on constate que ces femmes, elles produisent dans les 80-95% de nourriture, donc elles travaillent dans l'agriculture, elles ne détiennent que 1% des terres. Alors suite donc des conséquences de la mondialisation, ces mêmes terres sont pesticisées, sont fertilisées et ensemencées par des OGM. Parfois, elles sont même expropriées de ces terres pour qu'on puisse creuser des mines et des logements. Autre chose, dans certains pays en émergence, la mondialisation, elle a encouragé aussi la multiplication de zones franches, maquiladoras, dans lesquelles, et donc généraliser certes le travail rémunéré, je ne conteste pas du tout l'idée que effectivement le travail, le monde actif pour la femme est très important pour son autonomisation, mais dans quelles conditions ces femmes travaillent aussi, hein. Elles travaillent parfois dans des conditions de précarité, des conditions de travail qui laissent à désirer, vous savez, avec des bas salaires, absence de droits sociaux, et ce qui entraîne par la suite une dégradation de leur situation de femmes avec des doubles journées de travail, avec une conciliation, elles doivent concilier entre famille et travail, etc. Si on prend aussi la crise économique de 2008, et nous, tous les experts s'accordent sur le fait que c'est une des conséquences de la mondialisation et de la finance virtuelle aussi, il y a eu une féminisation de la pauvreté. Hein, donc, dans certains pays riches, 80% des travailleurs pauvres sont des femmes. Vous savez, il y a une corrélation aussi, crise financière dit endettement accru de certains pays. Et vous savez, en période de crise, quand on baisse les dépenses sociales, eh ben, ça concerne en premier lieu les personnes les plus vulnérables et dépendantes, qui sont les pauvres, et 70% des pauvres sont des femmes. Et permettez-moi juste d'ajouter une autre chose. Le Fonds des Nations Unies pour les femmes, il a mis en évidence une corrélation entre l'endettement accru d'un pays, vous savez, et la baisse de l'inscription des filles dans les écoles. Voilà, donc on voit bien que, certes, la mondialisation, elle a permis une certaine connexion entre les femmes et l'apparition de mouvements féministes, notamment islamiques, on en parlera peut-être par la suite, mais ceci dit, la mondialisation, elle a eu certains effets donc pervers sur la condition des femmes.
Alors, Philippe Moreau, enfin, je vais vous demander de réagir, et puis j'ai cette question, finalement, avec ce qu'abordait à l'instant Bouchra Benida, finalement, le travail féminin est-il un affranchissement ou un assujettissement, une libération ou une exploitation?
Alors, moi, je vais répondre deux choses. D'abord, la mondialisation, bon, je voudrais rappeler que la mondialisation, c'est la mer. Hein. On ne peut pas s'opposer à la mer. Elle est là, c'est une réalité, je veux bien que...
On
ne peut pas démondialiser. Ça, je crois que c'est une évidence. Deuxième point, ce que dit Mme Bouchra est exact, mais il ne faut pas oublier que toutes les révolutions, et notamment toutes les améliorations de la condition humaine, passe par des processus terribles. Quand vous regardez ce qu'a été la révolution industrielle à la fin du 18e siècle, au 19e siècle en Europe, ça a été terrible. Mais il n'y a pas d'autre mécanisme, il n'y a pas d'autre mode. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, la libération des femmes, l'émancipation des femmes, passe par des processus terribles pour ces femmes, ce qui a été décrit, l'exploitation des femmes, des conditions de travail extrêmement dures. Mais c'est clair, je vous rappelle que d'ailleurs, dans les États soviétiques, les femmes ont été mises au travail, et bien évidemment, elles ont été exploitées. Là aussi, ce qu'on peut pas, si vous voulez, ce qu'on voit bien, la mondialisation ne peut pas effacer d'un seul coup l'héritage historique. Or, l'héritage historique, c'est l'inégalité homme-femme. Et c'est le fait que les femmes sont beaucoup plus vulnérables que les hommes, donc ben, on en profite, c'est vrai qu'on en profite. Mais voilà, je crois qu'il faut aussi ne pas oublier certaines réalités, mais ne pas accuser la mondialisation de réalités historiques qui mettront beaucoup de temps à être éliminées.
Donc l'héritage plus que n'importe quoi. Elisabeth Crémieux.
Oui, je suis d'accord bien sûr avec Bouchra. Si on a écrit un livre ensemble, c'est qu'on est d'accord. Mais ce que je constate, et là je suis plutôt du côté de Philippe Moreau de Farge, c'est que ces emplois industriels qui nous paraissent l'enfer sur terre, des durées de travail épouvantables, des bas salaires, pas de droits, des amendes pour un oui, pour un non, des menaces de renvoi, sont considérées par ces femmes comme une amélioration par rapport à leur situation antérieure, qui est d'être des sortes d'esclaves à la campagne, au sein de la famille. Et quand il y a eu l'accident du Rana Plaza au Bangladesh il y a un an, Mohamed Younous, le fondateur de la Grameen Bank, a dit « Ces emplois industriels ont sorti les Bengalais, enfin une bonne partie des Bengalais, de la misère. » Et beaucoup de Bengalais ou de syndicalistes ont dit « Ne vous en prenez pas à cette industrialisation. Bien sûr, il faut lutter pour que les conditions de travail et les salaires s'améliorent, mais c'est la seule façon pour nous de sortir de la misère. » Donc c'est vrai que ce qui nous paraît à nous des conditions de travail exécrables, pour ces femmes venant de pays où leurs conditions de vie et de travail sont encore pires, c'est quelque chose qu'elles recherchent.
Je n'ai rien à ajouter. Je souscris totalement à ce qui était dit.
Alors, moi, je vais me tourner vers Bouchra Benida. Bouchra Benida, le printemps arabe, les printemps arabes ont libéré la parole des femmes. Quels sont aujourd'hui les acquis ?
Aujourd'hui, les acquis donc sont là, mais il ne faut pas oublier aussi que suite au printemps arabe, donc la femme a été la première victime hein, dans certains pays, parce que on a constaté, disons, une certaine régression dans la situation des femmes dans certains pays. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que effectivement, les femmes ont vu donc leur participation augmenter, notamment dans la vie politique. Donc elles ont eu du courage donc à se présenter aux élections, du courage à aller voter pour certaines constitutions. Ces femmes, elles se sont constituées parfois dans certains pays en mouvement de façon à faire prévaloir leurs droits. Donc vous savez, moi j'ai vu des amis égyptiens et égyptiennes qui m'ont dit dernièrement, juste pour l'anecdote, que la femme avant le rassemblement à Place Tahrir en Égypte, le comportement de la femme avait changé juste après le rassemblement, c'est-à-dire qu'elle s'affirmait plus et qu'elle se sentait en quelque sorte l'égale de l'homme. Maintenant, il reste à appliquer les choses via les textes et via la mise en application de ces textes. Si je peux parler du cas du Maroc, on a une nouvelle constitution. Cette constitution qui a mis en place un principe constitutionnel d'égalité des sexes, qui est indéniablement une avancée loin d'être négligeable. Donc c'est que la femme devient l'égale de l'homme à tous les niveaux, bien sûr. Donc ça, c'est déjà un grand acquis pour la femme marocaine. Il en est de même dans certains pays hein, où la femme, il est question qu'elle commence donc avoir le droit de voter, sachant qu'elle en est privée dans pas mal de pays arabes.
Philippe Moreau de Farge.
Je crois que si on veut faire un tableau quand même complet des printemps arabes, il ne faut pas oublier que le problème numéro un de ces printemps arabes, c'est le chômage. Et que pour le moment, ces sociétés n'ont pas réussi à résoudre le problème du chômage. Donc là, on retrouve le problème général. Comment espérer une mise au travail des femmes et une émancipation réelle des femmes par le travail, alors qu'il y a un problème massif de chômage pour l'ensemble de la population. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on retrouve toujours la vulnérabilité plus forte des femmes à certaines situations que les hommes. Et c'est ça qui est très difficile. Mais tant que les printemps arabes n'auront pas résolu ce problème économique de création du travail, qui n'est pas un problème uniquement du monde arabe, on a ce problème-là en France. Hein. C'est clair que les printemps arabes ne pourront pas être une pleine réussite.
Elisabeth Crémieux.
Oui. Si vous Bouchra Benida. Vous savez que suite au printemps arabe, les femmes sont plus touchées par le chômage que les hommes. Si on prend le cas par exemple de la Tunisie, 43% des femmes sont au chômage contre 20% des hommes. Et la même situation, on la trouve aussi en Égypte. Donc effectivement, d'après ce que vient de dire Philippe, c'est que on est en train peut-être de rentrer dans un cercle vicieux. Donc voilà.
Chômage des femmes, c'est peut-être Elisabeth Crémieux, un manque d'éducation, en tout cas une éducation trop fragile pour leur permettre d'occuper des postes qui seraient moins susceptibles de fluctuer en fonction de la conjoncture.
Non, je ne crois pas, parce que je crois que le chômage des femmes diplômées dans ces pays-là est extrêmement élevé. Je pense que le chômage des femmes dans ces pays, ou même chez nous, est quelquefois lié à leur absence de qualification, bien entendu, mais c'est la même chose pour les hommes.
Ah ben, j'ai un chômage des diplômés mâles qui est très important. Ouais.
Non, mais quelles sont les populations les plus touchées par le chômage? Ce sont les populations les moins formées, les moins qualifiées, hommes ou femmes.
Oui.
Et il y a beaucoup de femmes non qualifiées. Il y a plutôt plus de femmes non qualifiées que d'hommes non qualifiés. Mais je crois que dans les pays du Maghreb, le chômage des femmes qualifiées ou du Moyen-Orient est important aussi. Et ça m'amène à cette idée que l'amélioration de la condition des femmes, elle passe par la croissance économique. Il n'y a pas de véritable solution sans croissance économique. Parce que, comme le disait Bouchra tout à l'heure, 70% des pauvres sont des femmes. Les premières victimes d'une crise économique, ce sont les femmes. Les premières bénéficiaires d'une amélioration de la situation économique, ce sont les femmes.
Philippe Moreau de Farge.
Je serais plus nuancé sur la dernière constatation. Je suis pas sûr que les femmes soient nécessairement les premières bénéficiaires d'une amélioration des situations économiques. Mais pour revenir au chômage, le chômage des qualifiés, est-ce que on peut dire que c'est un chômage qui concerne particulièrement les femmes? Le chômage des qualifiés concerne autant les hommes, enfin, je ne sais pas, il concerne les hommes et les femmes.
Oui, et peut-être que dans les pays musulmans, concerne avant tout les femmes.
Oui, parce que les préjugés jouent à plein.
Les préjugés jouent à plein.
Bouchra Benida, quelques mots là-dessus avant de terminer cette première partie d'émission.
Oui, écoutez, bon, on dit qu'il y a une corrélation entre la croissance économique et la réduction du chômage, mais je crois que ça serait croissance économique et développement économique local, où on donnerait plus la parole aux femmes pour, disons, déterminer ou définir leur avenir. Parce que quand on parle développement économique local, ça suppose un diagnostic territorial, un marketing territorial, et ça suppose aussi une participation de la population au niveau d'une localité. Et donc, qui dit participation de la population, c'est donner la parole aux femmes. Ça, c'est très important, parce qu'elles sont le plus au fait de leurs besoins et de leur, disons, de leurs objectifs. Voilà.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Bouchra Benida, Elisabeth Crémieux et Philippe Moreau de Farge dans quelques instants. À tout de suite.